Bien que, en fait, plus l'addiction, c'est complètement transdisciplinaire, vu qu'on a abordé un peu toutes les questions, une question économique, sociétale. Enfin. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que c'était très touffu, donc. Parti dans tous les sens. Vous aurez au moins quelques clés pour accompagner vos patients.
Allez,
petite question.
Oui, je suis toujours prêt à dire des conneries. Je vais faire une petite leçon professorale de médecine pour le psychologue et pour le philosophe. Le médecin, c'est un collaborateur de l'ordre social. D'ailleurs, c'est le plus grand collaborateur qui existe. Il n'y a pas plus collaborateur que le médecin. Et il fait une chose très importante dans l'ordre social, il crée des maladies pour réguler l'ordre social. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Par exemple, l'histoire des addictions. C'est devenu une maladie à partir du moment où ça a touché les médecins. D'ailleurs, ce n'est pas eux que ça a touché. N'oubliez pas l'histoire. Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes allé assez vite sur l'auto-usage. Les médecins, il y a une technique d'auto-usage, qui d'ailleurs a été complètement écartée de la médecine à partir du moment où des courants philosophiques religieux ont essayé de l'envahir, hein, la bienveillante neutralité. Mais historiquement, le médecin utilisait en double aveugle sur lui-même ce qu'il expérimentait. Il se passait une chose incroyable, c'est que le médecin, ce qui est terrible, c'est que sa femme se fait chier. Et sa femme, quand elle voit le médecin prendre son pied, elle utilise de façon décalée ces substances. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle? À la fin du 19e siècle, le médecin qui, vous savez, à l'Assemblée nationale en France, 25% sont des médecins ou des fils de médecins. Bon. Dans les milieux d'éducation importants dans ce pays, bon nombre des gens qui dirigent ce pays sont issus du milieu médical. C'est une réalité que tout le monde connaît. Bon. Alors qu'est-ce qui se passait à la fin du 19e siècle? Dans les soirées mondaines, les femmes de médecins qui s'emmerdent, parce qu'être une femme de médecin, c'est s'emmerder, vivre avec un médecin, il n'y a rien de plus chiant, utilisaient des opiacés et sous chacune de leurs robes avaient des trousseaux pour se faire des injections. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Finalement, les médecins, que leurs femmes prennent leurs pieds, c'était plutôt pas mal. Le problème, c'est que c'était pas supportable, parce qu'elles prenaient pas leurs pieds qu'avec eux, et pas d'une façon gérable socialement. Et donc, on a créé quelque chose qui s'appelle la toxicomanie, voilà, qui est une tentative de contrôle de la morale des médecins. Donc, le médecin crée une maladie pour contrôler ce qui se passe autour de lui, de la même façon que le virus du sida existait bien avant que ça devienne une épidémie, mais depuis très très longtemps, qu'on connaissait depuis très très longtemps le virus du sida, et tout d'un coup, il s'est posé une question, qu'est-ce que c'est que cette affaire qui fait que, finalement, des gens de mauvaises mœurs pourraient contaminer ma femme? C'est comme ça, le fond de la question du sida. Le contrôle, parce que la question de la prévention des risques, c'est pas la question des individus. Moi, je ne pense pas qu'il faille que les individus puissent, faire des efforts. Les individus, ils ont à vivre leur vie en toute liberté, sans emmerder les autres. Bon. Eh ben, dans le sida, ce qui s'est passé, la vraie question du sida, c'est pas la question qu'on voulait lutter contre le sida. On voulait arrêter que des personnes qui ont des mauvaises mœurs, suivez mon regard, puissent aussi contaminer ma femme. C'est ça le fond de la question. C'est qu'est-ce qui vient faire celui-là qui rentre dans mon intimité et perturber l'ordre social? Voilà. Donc la médecine, ça se crée des maladies, et ça crée des maladies pour contrôler, faut pas oublier. Nous sommes des collaborateurs. La médecine a fait des progrès considérables grâce à l'État nazi.
Alors, je ne sais pas si c'est une réponse à votre provocation, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, mais je voudrais juste reprendre, si on regarde ce qui se passe au moment où les médecins sont confrontés à la possibilité de prescrire des amphétamines, bon, oui, puisque c'est le cas sur lequel j'ai un peu travaillé. Il y en a qui prescrivent et il y en a qui prescrivent pas. Il y en a qui disent oui, c'est bien, et puis il y en a qui disent non, attention à vous, attention, vous allez dégrader votre santé. Donc ils sont pas tous d'accord, ils sont pas tous du même avis. Les médecins, ils sont donc pas les collaborateurs d'un seul et même ordre, manifestement. Ils ont des idées différentes sur leur fonction et sur leur rôle auprès de leurs patients. Ça, c'est... ce qui ressort, en tout cas, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement si on tient compte de cette diversité de position des médecins. Et même, je dirais, on pourrait interpréter l'histoire de l'interdiction des psychotropes, de certains psychotropes, dans le sens inverse. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce que les sociétés ont tenté, c'est précisément d'utiliser le pouvoir médical pour servir de courroie de transmission aux régulations de ces produits. Mais ça n'a pas marché. Donc, je ne crois pas que ça tienne tellement votre
Je crois qu'effectivement, hein, la question des addictions, elle croise la question de la médecine, mais elle ne se résume pas à la question de la médecine. Et que les pratiques addictives, elles sont sur un champ beaucoup plus large, hein, que simplement ce que l'on en voit quand on est chargé de soigner la partie qui est considérée à un moment donné comme étant une maladie, hein, et que ça a à voir avec cette espèce d'hésitation entre il y a quelque chose de fascinant dans ce pouvoir du produit, hein, et quelles sont les conditions qui me permettent de m'en approcher à moindre risque. La question autour de laquelle tout le monde tourne, alors à tour de rôle, les sociétés y répondent différemment. Enfin, je suis d'une génération où on a vu les premiers consommateurs d'hallucinogènes. Donc effectivement, ils avaient lu Castaneda. Effectivement, ils arrivaient en disant, mais les champignons hallucinogènes, on peut les consommer. Effectivement, sauf que les personnes qui les consommaient à tel ou tel endroit avaient tout un tas de pratiques rituelles qui canalisait quelque chose, et tout un tas de pratiques sociales qui sélectionnaient celui qui allait consommer l'hallucinogène, ce que eux n'avaient pas à leur disposition. Et notre réponse à ce moment-là, dans ces années-là, c'est de dire c'est la loi qui va interdire. Hein, c'est-à-dire que la réponse donnée à l'arrivée de cette consommation était de dire on va le mettre de ce côté-là, du côté des drogues illicites. Vous vous rappeliez rapidement que les drogues illicites, c'est un composite absolument hétéroclite. Sur un plan pharmacologique, ça ne tient pas, la notion de drogue illicite. Hein, ce sont des molécules absolument différentes qui on regroupe sous le même... C'est simplement une définition juridique. Et on va dire, eh bien là, ce sera l'interdit qui sera la protection. Alors, je ne suis pas un théoricien absolu de l'effort. Je ne voudrais pas que la rapidité de mes propos me caricature, mais je pense quand même qu'on ne peut pas penser une société sans processus éducatif, qu'on ne peut pas penser une société sans le fait qu'aller vers un certain nombre de comportements, cela s'apprend. Et dès lors qu'on arrête d'être fasciné par le produit, on trouve logique d'apprendre à conduire. C'est-à-dire on trouve logique d'apprendre à gérer la vitesse. On trouve logique d'apprendre les sensations fortes. Par exemple, cette espèce de schéma naïf qui est de dire « Ah, ils ont pris des produits, donc on va leur faire monter une montagne, traverser un océan, un truc. Voilà. » Sauf que la différence, c'est que quand vous prenez le produit, vous l'avez en quelques minutes, quelques secondes, dans cette espèce de swift d'instantanéité. Si vous voulez avoir la même sensation en faisant du parachute, en montant au-dessus d'une montagne ou en traversant l'Atlantique, vous êtes obligé de passer par une phase d'apprentissage, hein, par une phase, entre guillemets, d'éducation. Et qui, du coup, va à la fois vous rendre plus autonome par rapport à ce plaisir, mais d'une certaine façon en atténuer l'intensité absolue. Parce que l'intensité absolue du plaisir, c'est au moment où il vous échappe. Et voilà. Et on retourne en rond en permanence sur ces espèces de paradoxes, ce qui renvoie à ce sur quoi vous n'avez pas pu parler, mais de l'homme nietzschéen et de la différence entre le travail sur soi et les prothèses qu'on se met à côté, en plus. Moi, j'y répondrai un peu comme ça, mais ça ne se résume. Ça, on ne peut pas le résumer au champ médical, de même qu'on ne peut pas le résumer à l'opposition entre les protestants et les catholiques.
Oui, oui, non, mais je sais bien que c'est de la provocation, mais il y a un grand malentendu parce qu'on ne parle pas de la même chose. Voilà. Les conduites addictives et les addictions, ce n'est pas la même chose. Il faut faire attention. Parce que, bon, après, on peut écrire des livres, on peut aller à la télé, faire son numéro et tout ça. Bon, c'est bien. La vraie question, c'est... Parce que moi, je suis un docteur, le reste, les questions de société, je vais voter pour ça, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin d'aller sur un estrade. Bon, voilà. Non, mais il faut être sérieux. Parce que ce n'est pas la substance qui pose problème. C'est pour ça qu'on a créé la question des addictions. C'est la conduite motivée d'un individu. La substance en soi, elle ne pose aucun problème. Elle pose le problème qu'elle vous rend dément, c'est tout. Mais dans la privation de liberté, ce qui fait qu'il y a une toxicomanie, ce qui fait qu'il y a une addiction, c'est que j'ai perdu la liberté de mes conduites motivées. Et c'est ça la prévention des risques. J'ai affaire à un être responsable qui pose la question de ses conduites motivées. Et ces conduites motivées et ces conduites responsables, elles ont à voir avec l'emmerdement du quotidien, comme la femme du médecin. Ce qui pose question, c'est comment je me fais chier dans le métro, boulot, dodo, j'allais dire médecine, garde et visite. Qu'est-ce qui fait ? Comment je trouve des sources de plaisir par rapport à ça ? Effectivement, c'est nos femmes qui nous montrent, comme nous sommes caricaturaux, et comme dans notre addiction à faire le médecin, nous avons une grande difficulté à être un être humain. Et je ne pense pas que ce soit la question d'enlever les substances qui pose une question. C'est la question de comment, dans mon quotidien, dans ma vie lambda, qui est quand même 99% de mon existence, 100%, la plupart d'entre nous, on se fait chier du matin jusqu'au soir. Comment, dans cet univers dans lequel je me fais chier, je peux avoir quelques minutes de bonheur? Voilà. Ça, c'est très important.
Oui, d'accord.
Et toutes les conduites à risque n'ont pas des, toutes les conduites à risque n'ont pas des, limites légales? Il y a plein de conduites à risque. Enfin,
juste, il y a d'abord une vérification. Votre schéma marche en sens inverse, parce qu'il semblerait que la démographie fasse que ce soit de plus en plus de femmes qui soient médecins. Et donc, maintenant, l'homme médecin voyant sa femme prendre du plaisir... Le schéma,
oui, c'est pour ça que la médecine commence à se poser le problème du transsexuel.
Voilà, bon, donc on est en plein dans le mauvais genre. Et la deuxième chose, bien évidemment, les conduites addictives, c'est pas la même chose que la maladie addictive, mais on est sur un tronc commun.
Je pense qu'on est.
Ça c'est un vrai problème. Mais je pense qu'on est sur un tronc commun. Très culturellement, on est sur un tronc commun. Et on ne peut pas, ce sera une autre discussion, mais si on ne le conçoit pas comme ça, je suis d'accord. Du coup, un certain nombre des solutions qu'on peut proposer, y compris la politique de réduction des risques, va se résumer à une réponse purement médicale. Et je trouve que là, on se ferait réenfermer dans un champ qui sera dommage.
Bon, on va peut-être...